Radio Okapi.
À la une, calme relatif hier à Mouesso, au Nord Kivu. C'est au lendemain des bombardements du M23 ayant tué 19 personnes le jeudi dans la région. La cité de Mouesso étant une région stratégique, aussi bien sur le plan économique qu'opérationnel, ceci attirait ces rebelles. Nous faisons le point dans un instant. Ituri, plus de 300 pêcheurs ont quitté leur camp de pêche au bord du lac Albert pour aller pratiquer la pêche illicite dans les zones sous contrôle des groupes armés. C'est depuis environ 3 mois. Des conséquences négatives s'en suivent. Le chef des divisions de service interpelle les autorités compétentes. Et puis, l'invité de ce matin, le lieutenant-colonel Kedagny Mensah, porte-parole militaire de la MONUSCO basée à Goma. Il revient sur l'implication de la force onusienne aux côtés des FARDC pour sécuriser les civils en Ituri, au nord et au sud Kivu, entre le 17 et le 22 janvier 2024. Madame, Messieurs, bonjour. Nord Kivu, une accalmie relative a été observée toute la journée d'hier vendredi à Mouesso. C'est au lendemain du drame et des dégâts matériels importants enregistrés jeudi dans la région à la suite des affrontements violents. Des sources à Mouesso nous apprennent également que les corps des 19 victimes qui ont été tuées par des bombardements le jeudi ont été enterrés hier vendredi par des acteurs locaux avec l'aide de l'hôpital général de Mouesso. Les blessés continuent de suivre les soins sur place. Par ailleurs, des affrontements ont été enregistrés dans la région de Mudugudu, groupement Bukombo, chefferie de Buito, non loin de Mouesso. L'attaque aurait été lancée par les rebelles du M23 contre les groupes armés locaux à Kanyangoye. Dans son communiqué de jeudi soir, l'armée a affirmé avoir enregistré des attaques des rebelles du M23 dans la même région depuis le 24 janvier. Mais qu'est-ce qui pousse les hommes du M23 à tenir à tout prix à maintenir leur contrôle dans la région de Mouesso-Kichanga? Notez que la cité de Mouesso est un carrefour qui relie les territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale. Elle est située à 100 km au nord de Goma, dans le territoire de Masisi. Elle constitue une région stratégique, aussi bien sur le plan économique qu'opérationnel. C'est ce que nous dit Sifa Maguru.
À partir de Mouesso, on obtient les contrôles sur plusieurs axes importants, notamment l'axe Kashuga-Kalembe qui mène vers Walikale, l'axe Kichanga dans les Masisi, mais aussi l'axe Katiru-Jiten dans les Rutshuru. Mouesso et Bukombo dans les Buito permet également aux rebelles du M23 de se ravitailler en hommes et en armes depuis le Rwanda en passant par Kalingera-Tongo-Buiza, affirment les notables de la zone. Sur le plan socio-économique, l'axe Mouesso est actuellement la seule voie routière qui connecte le Grand Nord à la ville de Goma après la suspension du trafic sur la nationale numéro 2 Goma-Rutshuru. Tous les camions de marchandises et véhicules de voyageurs en provenance de Butembo-Beni doivent passer par Kanyabayonga, Nyanzale, Katiru, Mouesso jusqu'à Goma en passant par Masisi. Ce tronçon est non seulement très long, mais aussi en délabrement très avancé, sans compter des multiples barrières où les groupes armés font payer des taxes exorbitantes aux passagers. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, plusieurs enfants de la région de Beni, Butembo et Lubero n'ont pas accès à l'éducation de base à cause de l'insécurité. L'alerte est du président du Parlement d'enfants de cette région, selon Joël Ngunza. Ces enfants, qui se déplacent régulièrement pour se protéger contre l'activisme des groupes armés, ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement décidée par le gouvernement. Le président du Parlement d'enfants de Beni, Butembo et Lubero appelle les autorités à mettre tout en œuvre pour garantir les droits des enfants, notamment celui à l'éducation. Joël Ngunza est au micro de Martial Papi Mukeba.
Quand il y a la guerre dans un coin, les enfants peuvent avoir peur de se rendre à l'école. Pas parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu naturel, mais parce qu'ils craignent que les groupes armés peuvent encore une fois venir et tuer les enfants. Et puis les enfants, ils auront peur de ça et ne vont plus aller à l'école. Ce qui met en danger toute la communauté. Imaginez une communauté où les enfants ne sont pas en train d'étudier. Ça, c'est une situation vraiment qui est visible dans l'est du pays, où plusieurs enfants, même s'il y a gratuité, plusieurs enfants ne sont pas en train d'aller à l'école à cause cause de cette situation de guerre. Nos enfants sont recrutés dans des groupes armés. C'est une occasion pour nous d'appeler encore une fois les autorités, de regarder dans quelle mesure restaurer la paix à l'est de la République. Parce que aussi longtemps que cette guerre continue, tous les domaines sont en train d'être touchés. Chers autorités, veuillez mettre en place des bonnes stratégies et que les enfants jouissent bien de leur droit à l'éducation. Non seulement à leur droit à l'éducation, mais aussi à plusieurs droits.
Nous sommes toujours au Nord Kivu, dans le territoire de Beni. La nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori dénonce les tracasseries militaires aux différentes barrières érigées par des soldats FARDC sur les routes de dessertes agricoles. Selon Mele Kimulala, coordonnateur de cette structure, les militaires déployés dans la région se livrent à cette mauvaise pratique en faisant payer des taxes illégales allant de 500 à 1000 francs congolais aux cultivateurs. Il recommande aux autorités civiles et militaires de s'impliquer pour mettre fin à ces tracasseries qui risque, selon lui, d'influer négativement sur la collaboration civilo-militaire. Mele Kimulala explique au micro d'André Kitenge.
La population du secteur Rwenzori a beaucoup pleuré sur les cas de tracasserie qui sévissent dans différentes contrées du groupement Bolema et Malambo. Là, c'est dans les axes qui mènent vers les champs des paisibles populations. Là, il y a des gens qui se donnent le courage de demander les rapports aux cultivateurs qui demandent 1000 francs, 500 francs aux paisibles citoyens que nous représentons. C'est comme ça qu'on est allé voir les commandants. Et il nous a rassuré qu'il va s'impliquer davantage pour que cette question cesse parce que ça handicape les mariages civilo-militaires dans une partie du secteur Rwenzori. Parce que la majorité, soit 85% de la population du groupement Bolema et Malambo, elle est cultivatrice, donc nous dépendons des champs. Ce n'est pas alors bon de commencer à demander les 1000 francs, soit les 500 francs à un cultivateur qui se donne même le risque d'aller chercher la vie de ses enfants là où il n'y a pas la paix totale.
Tous nos efforts pour avoir la version de l'armée n'ont pas abouti. Autre nouvelle, nous sommes en Ituri, je vous l'ai dit dans les titres. Plus de 300 pêcheurs ont quitté depuis environ 3 mois leur camp de pêche au bord du lac Albert pour aller pratiquer la pêche illicite dans les entités lacustres, encore sous contrôle des groupes armés. Le chef de division des services de pêche indique que ces pêcheurs utilisent des filets à mailles prohibés en complicité avec certains militaires des FARDC, ce qui a comme conséquence la destruction de l'écosystème aquatique et la baisse de la production des poissons au lac Albert. Au gouvernement de faire respecter la réglementation de la pêche au lac Albert et sanctionner les contrevenants. Un extrait des propos de Charles Bessissa au micro de Ezekiel Mousalia.
Le constat amer qui a été fait, beaucoup de pêcheurs se déplacent et vont s'installer dans des camps de pêche illégaux protégés par les groupes armés. Nous avons peur de la destruction de l'écosystème. La génération risque d'avoir un problème sérieux en matière de pêche. Nous risquons de perdre les espèces de poissons. Nous risquons de perdre la valeur alimentaire quant à ce qui concerne les poissons. Que les autorités à tous les niveaux puissent soutenir les services. Nous avons des textes légaux, mais ces textes ne sont pas mis en application. Seulement parce qu'il y a trafic d'influence à tous les niveaux.
Et puis, l'agriculture face au changement climatique. Voilà l'objet de la sensibilisation menée cette semaine à Mbandaka à l'attention des petits producteurs agricoles de la ville et de la banlieue. Plusieurs organisations paysannes y ont pris part à l'initiative de BCECO, Bureau central de coordination, avec l'appui financier du Fonds vert. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Les effets du changement climatique n'épargnent pas les agriculteurs de l'Équateur. Eux-mêmes l'ont témoigné lors des séances rotatives de l'atelier de sensibilisation sur ces phénomènes tenues du 23 au 26 janvier ici en Mbandaka. Notamment la perturbation du régime pluviométrique, lequel a commencé à bouleverser le calendrier agricole et les récoltes attendues. Selon l'animateur de l'atelier, l'expert en finances vertes Charlie Perrier-Lamba, l'objectif était de soutenir les petits producteurs agricoles de la ville et ses environs dans leurs efforts de résilience. C'est grâce à la prise de conscience des causes et effets du changement climatique, a indiqué l'expert, que les petits agriculteurs devront efficacement s'intégrer dans la lutte, car le changement climatique demeure leur second défi après la production quantitative et qualitative des vivres pour la population. À cet effet, les organisateurs ont recommandé aux participants d'adopter des pratiques de l'agriculture durable. Il s'agit entre autres zéro agriculture sur brûlis, zéro labour, agriculture de précision, culture des variétés tolérantes à la chaleur, gestion intégrée de la fertilité des sols, utilisation des semences améliorées et des engrais organiques, j'en passe. En revanche, l'accompagnement du gouvernement est aussi exigé en vue de l'atténuation des effets du changement climatique sur le secteur agricole, a conclu l'ingénieur Charlie Périr Lamba. Bondaka pour Chamalingela, Radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika, le mouvement citoyen Vijana Tulamuke RDC a introduit une plainte à charge de la gouverneure du Tanganyika à la Cour de cassation. C'est depuis le lundi dernier. Cette structure citoyenne l'accuse de détournement des deniers publics. Paulin Munanga nous en dit plus.
Dans cette plainte adressée au procureur général près la Cour de cassation à Kinshasa, le mouvement citoyen Vijana Tulamuke RDC accuse la gouverneure du Tanganyika Julie Ngungwa d'avoir détourné 13 000 $ américains destinés au transport des effigies du chef de l'État de Kinshasa à Kalemie. Cette structure citoyenne charge en outre la gouverneure du Tanganyika d'avoir subtilisé la somme de 31 000 $américains affectée à l'impression des banderoles pour la visibilité du chef de l'État, lit-on dans la plainte. Le mouvement citoyen Vijana Tulamuke RDC accuse aussi l'autorité provinciale du Tanganyika d'avoir détourné la somme de 500 millions de francs congolais qui a été décaissée pour l'accueil du chef de l'État dans le Tanganyika. Plusieurs autres griefs sont portés à charge du chef de l'exécutif provincial du Tanganyika. Le coordonnateur national de cette structure demande l'implication du chef de l'État dans ce dossier afin que la justice fasse son travail en toute impartialité. Merci Koko Ruambuzo.
Nous pouvons interpeller le président de la République parce que nous lui avons réservé une copie de ce dossier, qu'il fasse le mieux possible pour que la justice ne soit pas corrompue, tel qu'il a prôné l'état de droit, que réellement ce dossier ne passe pas à inaperçu, et que cette justice soit réellement impartiale.
Radio Okapi n'a pas réussi à joindre la gouverneure du Tanganyika pour avoir sa réaction. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme annuel, le réseau des ONG d'action en santé mentale, ROSAM, a organisé sa première réunion virtuelle sur la question de la santé mentale, droits de l'homme et législation. La conférence tenue jeudi par ROSAM, appuyée par l'ONG internationale OCISA, OSF Africa, a pour but l'adoption de la proposition de loi relative à la santé mentale en RDC. Cette loi, élaborée en tenant compte du document guide de l'OMS sur la santé mentale, droits de l'homme et législation, vise l'amélioration de la vie et la protection du bien-être de tous les citoyens. On écoute à ce sujet le professeur Dr Okitundulua Daniel, médecin neuropsychiatre et cofondateur de ROSAM. Il est au micro de Alpha Mpoissa.
Avoir l'histoire de ce pays depuis la colonisation de Léopold II jusqu'en ce jour, nous sommes une nation qui a connu de façon cumulative et de façon prolongée des événements pénibles et traumatiques, sans compter la pauvreté chronique. Et avec tout ça, nous avons des problèmes de santé mentale qui ne sont pas dévoilés. Donc le moment est arrivé pour dévoiler ce problème de santé mentale, organiser un système de réhabilitation en santé mentale de la population congolaise pour que nous soyons en mesure de profiter des potentialités naturelles de notre pays pour le développement de la nation et pour le développement du monde, parce que nous sommes une nation non seulement riche en ressources naturelles, mais une nation riche en peuple. Cette proposition de loi sur la santé mentale voudrait modifier et compléter la loi relative à la santé publique en République démocratique du Congo, qui est tout à fait lacunaire en matière de santé mentale, alors qu'il n'y a pas de vraie santé sans santé mentale. Et une loi qui utilise l'approche basée sur la santé mentale tout au long de la vie, du bébé jusqu'aux personnes du dernier âge, et en considérant aussi toutes les catégories de personnes vulnérables, même les peuples autochtones.
Actualité internationale. La Cour internationale de justice a demandé vendredi à Israël de faire tout son possible pour protéger la population de Gaza des risques de génocide. L'instance onusienne n'a pas ordonné un cessez-le-feu, mais réclame le respect du droit international humanitaire, une décision contraignante dont elle ne peut cependant pas contrôler l'application. Par ailleurs, les reliques de 119 personnes considérées comme des victimes du génocide rwandais ont été découvertes dans le sud du pays. Alors que le Rwanda doit commémorer les 3 décennies de la tragédie en avril, en octobre, 6 corps ont été trouvés sous une maison en construction dans le district de Houye. Les restes d'autres victimes continuent d'être découverts. Pour l'organisation des survivants du génocide Ibuka, les responsables du génocide ont pris soin de dissimuler les informations qui pourraient les incriminer.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le lieutenant-colonel Kedangni Mensa, porte-parole militaire de la MONUSCO, basée à Goma. Il revient sur l'implication de la force onusienne aux côtés des FARDC pour maintenir la sécurité des civils dans les provinces de l'Ituri, au nord et au sud Kivu, pendant la période allant du 17 au 22 janvier 2024. Il s'entretient avec Jules Ngala.
Lieutenant-colonel Kedangni Mensa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'avez-vous à nous dire sur l'incident malheureux qui s'est produit à Boussio, c'était le 20 janvier 2024.
Le 20 janvier 2024, la MONUSCO a reçu des informations selon lesquelles il y avait eu une attaque par des individus armés non identifiés dans le village de Boussio qui a fait 2 morts, le chef de village et son épouse, et 1 blessé. Le bataillon indonésien déployé dans la zone a envoyé immédiatement une patrouille vers le camp des FARDC à Tchabi, dans le but de conduire une patrouille conjointe vers le lieu de l'incident. Les forces de défense et sécurité congolaises de la zone ont lancé des recherches en vue d'identifier les auteurs de ce crime. La situation est redevenue calme et des patrouilles conjointes sont poursuivies en vue d'assurer la protection des civils.
Dans le cadre de la protection des civils, la MONUSCO a-t-elle conduit des opérations non militaires?
Oui, pour une récolte apaisée, la MONUSCO a planifié et conduit l'opération dite récolte sécurisée pour les saisons de récolte. Cette opération conduite par le bataillon bangladeshi dans l'Ituri a pour objectif de dissuader toute tentative de pillage des champs ou des greniers des populations. Elle a non seulement permis d'assurer une sécurité permanente aux populations lors de leur déplacement en aller comme en retour de leurs champs respectifs, mais surtout pendant la culture et la récolte des produits cultivés. Elle a enfin facilité l'exploration d'autres terres cultivables en vue de permettre à la population d'accroître l'espace à cultiver. Les populations locales ont exprimé leur profonde satisfaction à l'énorme soutien fourni par la MONUSCO dans le domaine de l'exploration agricole et la remercie.
Que pouvez-vous nous dire alors de l'assistance qu'apporte la MONUSCO au FARDC dans le cadre de la lutte contre le groupe armé M23?
Dans le but de continuer à maintenir la paix et l'instabilité dans le Nord Kivu d'une part, et d'aider les FARDC à empêcher toute avancée du groupe armé M23 vers les villes stratégiques de Goma et de Sake d'autre part, les forces de la MONUSCO tiennent des positions clés sur les principaux axes d'approvisionnement des populations menant vers Goma et Sake. Dans cette posture défensive, elles continuent de fournir un soutien conséquent aux FARDC dans la lutte contre le M23 en termes d'acquisition du renseignement, de la logistique et d'appui-feu.
Que pouvez-vous alors nous dire de la séquestration de 22 chefs de famille par le groupe armé Tugiraneo?
Le 19 janvier 2024, un groupe de 22 chefs de famille a été illégalement arrêté et détenu par le groupe Tugiraneo dans les villages d'Irumba et de Kanangara au sud de Kivu. La raison de leur séquestration serait liée à la récente reddition de leurs enfants à la 12e brigade des FARDC. Le contingent pakistanais déployé dans la région est alors mis en alerte pour contribuer à la sécurité des enfants qui se sont rendus. La MONUSCO travaille en étroite coordination avec les forces de défense et de sécurité congolaises pour éviter qu'un incident ne survienne dans la région.
Que pouvez-vous nous dire alors sur la situation sécuritaire dans la région de Minembwe, notamment à Mikenge?
La situation sécuritaire est très instable dans les zones de Minembwe, Mikenge et ses environs, où les affrontements entre groupes armés persistent. La force de réaction rapide du bataillon pakistanais a apporté son appui au FARDC pour faciliter leur ralliement et rester jusqu'à ce que la situation revienne calme.
Peut-être pour finir, que peut-on retenir de l'opération dite effort de paix numéro 5?
Du 20 au 22 janvier 2024, le bataillon pakistanais a mené l'opération coup de poing dénommée effort de paix numéro 5 dans les zones environnantes de la ville de Baraka en vue d'assurer la protection des populations civiles et de dissuader les groupes armés. Cette opération a été conduite en réponse aux récurrentes actions des groupes armés dans la région.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, Radio Okapi vous dit merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le porte-parole militaire de la MONUSCO, basé à Goma, répondait aux questions de Jules Ngalawamona. Par ici prend fin ce journal coordonné et supervisé par Noëlla Luzitu Kabambi, Alain Goy à la mise en onde et Belinda Bossouma vous l'a présenté. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.